Et le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. L'Europe est mortelle, elle peut mourir. Emmanuel Macron avait des accents alarmistes ce matin à la Sorbonne pour exposer sa vision de la construction européenne. Une Europe menacée par les nationalistes, a dit le chef de l'État dans une allusion limpide aux enjeux du scrutin européen. Dossier dans ce journal avec Rosalie Lafarge et Angélique Bouin. La Croix-Rouge veut mieux préparer les Français aux événements climatiques extrêmes. Elle propose de distribuer des sacs d'urgence utilisables en attendant les secours. Il y a effectivement urgence, nous dira le climatologue Jean Jouzel. Rebondissement judiciaire aux États-Unis dans l'affaire Harvey Weinstein. La cour d'appel de New York annule l'une des condamnations de l'ancien producteur condamné pour viol. Enfin, le dossier de ce journal consacré ce soir à la chasse à la baleine au Japon. Malgré les critiques, le pays veut amplifier cette chasse avec un nouveau navire. Il avait décroché la Palme d'Or à Cannes pour son film « Entre les murs ». Le réalisateur Laurent Canté est mort aujourd'hui à l'âge de 63 ans. Emporté par la maladie, Laurent Canté qui avait obtenu un premier succès public en 2000 avec « Ressources humaines ». Mais c'est bien « Entre les murs », ce film tourné en 2008 dans un collège parisien qui lui vaudra une renommée internationale. Benoît Grossin, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à toutes et à tous.
Laurent Canté qui a voulu raconter la société française à travers ses films.
Et c'est dans la prestigieuse école de cinéma l'IDEC, rebaptisée Fémis, que Laurent Canté débute son parcours au milieu des années 80 en se liant d'amitié avec des camarades de promotion comme Dominique Moll et un autre futur réalisateur, Gilles Marchand, en rencontrant aussi à cette époque Pierre Milon, le chef opérateur de la plupart de ses films et celui qui deviendra son co-scénariste et monteur, Robin Campillo. Et c'est après deux courts-métrages, Tous à la manif et Jeux de plage, avec des méthodes collectives et des acteurs non professionnels, qu'il tourne en 2000 son premier long-métrage, un film social et sensible, Ressources humaines, avec Jalil Lespère dans le rôle principal, et l'année suivante, L'emploi du temps avec Aurélien Recoin dans la peau d'un personnage proche de Jean-Claude Roman, cet imposteur qui avait fait croire pendant des années à ses proches qu'il était médecin. Ressources humaines et l'emploi du temps sont déjà des succès publics et critiques, mais ce n'est que 7 ans plus tard que Laurent Canté obtient la consécration, la Palme d'Or, en faisant à nouveau confiance à des acteurs non professionnels pour Entre les murs, une fiction sur une classe d'un collège parisien avec François Bégaudeau dans son propre rôle de professeur, une fiction, et bien une fiction malgré sa forte dimension documentaire. Laurent Canté s'était exprimé à ce sujet dans Projection privée sur France Culture en 2000.
J'en suis assez content aussi, hein, qu'on puisse avoir ce sentiment d'une réalité saisie justement comme ça. Moi, c'est aussi ce qu'on cherche, évidemment, même si ce que j'aime faire aussi, c'est raconter des histoires. En plus, là, je pense que ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de construire le film autour de ce paradoxe-là. Enfin, est-ce qu'on est dans le documentaire, est-ce qu'on est dans la fiction ? Moi, je sais qu'on a écrit, raconté une histoire très, très construite, mais on l'a construite à partir justement d'une espèce de chaos documentaire du début du film qui se présente vraiment comme la chronique comme ça d'une classe dont petit à petit des personnages vont émerger. Et en fait, l'écriture a été beaucoup axée sur la façon de faire naître des personnages de cette réalité donnée à voir comme ça de façon très brute dans le début du film.
Laurent Canté avait tourné en 2012 un long métrage en Amérique du Nord, Foxfire, l'histoire d'un groupe de lycéennes formant un gang contre le machisme aux États-Unis. Laurent Canté était membre en France du collectif 50-50 pour l'égalité des femmes et des hommes au cinéma.
Benoît Grossin, merci. Et vous pouvez retrouver sur franceculture.fr nos principales émissions consacrées à Laurent Canté, disparu aujourd'hui. À 6 semaines des élections européennes, Emmanuel Macron a donc choisi de dramatiser l'enjeu européen. Notre Europe est mortelle, elle peut mourir, a mis en garde le chef de l'État ce matin à la Sorbonne. Un discours de presque 2 heures devant 500 invités, où le président a décrit une Europe en situation d'encerclement face aux grandes puissances régionales. Emmanuel Macron, qui a plaidé pour une Europe puissance, capable de se faire respecter et d'assurer sa sécurité. Et cela suppose, selon lui, que l'Union européenne retrouve la maîtrise de ses frontières. Rosalie Lafarge, bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Macron a mis l'accent sur une menace en particulier, celle des nationalistes.
Oui, les menaces sont nombreuses. Emmanuel Macron prend le temps de les lister, mais il en garde une effectivement pour la fin de son discours.
Notre Europe peut mourir, je vous le disais. Mais elle est dans un moment où elle peut mourir d'elle-même. Parce que nous retrouvons un temps que notre Europe a connu. À nouveau, notre Europe ne s'aime pas. Quand on voit tout ce qu'elle a fait et ce qu'on lui doit, c'est étrange, mais c'est ainsi.
Paradoxe, relève même le président. Malgré les crises, assure-t-il, jamais l'Europe n'aura autant avancé. Plus personne n'ose assumer vouloir sortir de l'Europe ou de l'euro, poursuit encore Emmanuel Macron, avant de tacler, sans les nommer, ses adversaires de l'extrême droite.
Ils nous ont tous habitués à un discours qui est le 8 mai, qui est dire « j'empoche tout ce que l'Europe a fait, mais je le ferai plus simple ». Mais je le ferai en ne respectant pas les règles, en bafouant ses fondements. Au fond, il ne propose plus de sortir de l'immeuble ou de l'abattre. Il propose juste de ne plus avoir de règles de copropriété, de ne plus investir, de ne plus payer le loyer. Et il dit « ça va marcher ».
Et face à cela, face à la montée des nationalistes et des anti-européens partout sur le continent, pas de fatalisme, exhorte le chef de l'État.
La réponse n'est pas dans la timidité, elle est dans l'audace. La réponse n'est pas dans le constat de dire « ils sont en train de monter partout ». Elle est dans se dire « on a le choix ».
Rare, si ce n'est seule référence directe aux élections à venir, on a le choix, insiste le président, moment décisif, moment de bascule, appuie-t-il plusieurs fois, comme pour rappeler aux siens l'importance du scrutin du 9 juin.
Rosalie Lafarge, merci. En France, c'est bien sûr le Rassemblement National qui incarne cette menace nationaliste aux yeux d'Emmanuel Macron, même s'il ne l'a pas cité dans son discours. Le RN donnait largement en tête des intentions de vote, avec environ 30% pour la liste Bardella. Jordan Bardella, qui justement présentait son programme européen cet après-midi à Paris, et il n'a pas manqué de dénoncer un discours électoraliste du chef de l'État.
En présentant un programme d'action européenne pour celle qu'il a décrite dans une intervention relayée par le site de l'Élysée comme sa candidate, le président de la République a pris le parti d'intervenir directement et personnellement dans une campagne électorale. Le fait d'intervenir ainsi acte un engagement personnel et direct, un engagement symbolique et éminemment politique. Or, qui dit engagement politique et personnel dit nécessairement responsabilité politique. En politique et surtout à ce niveau, on ne peut pas mettre en jeu sa responsabilité sur un projet politique, le mettre à l'arbitrage du suffrage universel et s'esquiver s'il devait être désavoué par le peuple. En clair, si la liste d'Emmanuel Macron devait perdre cette élection, c'est-à-dire si elle était distancée par la liste d'opposition, le président de la République, chef de la majorité, non seulement minoritaire mais défaite, devra en tirer toutes les conséquences. Ce que je propose aux électeurs le 9 juin, et cela est clair, sanctionner le gouvernement français et l'Europe de Macron d'une part, ouvrir la voie de l'alternance d'autre part. La conséquence concrète et immédiate, nous l'avons dit, devra être la dissolution de l'Assemblée nationale. L'intervention ô combien politique d'aujourd'hui rend cette option inévitable en cas de désaveu électoral de la liste du président Macron. Pour tous les Français, l'intervention du chef de l'État doit s'interpréter comme un appel au vote et comme un appel à la mobilisation.
Jordan Bardella qui répondait à Antoine Marette. Alors, dans son discours à la Sorbonne, Emmanuel Macron a une nouvelle fois plaidé en faveur d'une véritable Europe de la défense face aux missiles russes qui pleuvent aujourd'hui sur l'Ukraine. Il a appelé à un sursaut européen et cela passe par la création d'un bouclier antimissile. Angélique Boin.
Les règles du jeu ont changé, dit le président, du fait de puissances désinhibées comme la Russie ou l'Iran. Il appelle à un réveil face au réarmement généralisé du monde. Il faut bâtir, dit-il, une initiative européenne de défense qui pourrait inclure un bouclier antimissile européen, une sorte de dôme de fer, une idée déjà sur les rails à l'initiative de l'Allemagne, que la France a dans le passé vivement critiquée car les technologies envisagées par Berlin sont américaines, israéliennes et allemandes. Le chef de l'État a aussi appelé à accélérer la création déjà prévue d'une force rapide d'intervention européenne de 5000 militaires et à unir les forces des 27 en matière de cybersécurité. Et pour financer une industrie européenne de défense à la hauteur des enjeux, il soutient l'idée d'un nouvel emprunt commun de 100 milliards d'euros, proposition de la première ministre estonienne, auquel Berlin est très opposé. Avec le dérapage actuel des comptes publics en France, ce sera difficile pour Paris de convaincre le chancelier allemand et les pays dits frugaux.
Angélique Boin à Strasbourg, au siège du Parlement européen. Et pendant ce temps-là, Vladimir Poutine accélère son rapprochement avec la Chine. Le président russe a annoncé aujourd'hui qu'il se rendrait en visite officielle à Pékin au cours du mois de mai. Il s'agirait de son premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection en mars. Vladimir Poutine qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour la déportation d'enfants ukrainiens. La Croix-Rouge veut mieux préparer les Français à affronter le dérèglement climatique. Dans un rapport sur la résilience de la société française, elle fait un certain nombre de propositions, comme la distribution à la population d'un catakit, un sac d'urgence contenant nourriture, eau, trousse de secours, vêtements et lampes torches, pour attendre l'arrivée des sauveteurs. Pour le climatologue Jean Jouzel, il est clair qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à affronter ces événements climatiques extrêmes.
Quand on parle d'événements extrêmes, on va parler de sécheresse, de vagues de chaleur, d'inondations, de glissements de terrain. Disons, on s'y intéresse de plus en plus, mais on voit bien qu'on n'est pas véritablement prêt, par exemple, à prendre des mesures de prévention. Et c'est ça qui est un peu un problème. C'est-à-dire que, par exemple, le monde agricole a du mal à penser adaptation, soyons clairs. Il pense surtout curatif. Comment on garde l'accès à l'eau. La même quantité d'eau, mais on ne se remet pas en question dans un monde où il y aurait, par exemple, moins de disponibilité en eau, alors qu'il y a des solutions qu'on peut mettre en œuvre. On n'a pas cette culture du risque, on n'a pas cette culture de l'anticipation par rapport à ces événements extrêmes. Il n'y a pas de secteur d'activité qui puisse se dire « le réchauffement climatique, ce n'est pas mon affaire ». Donc, et c'est très clair, ce que l'on vit aujourd'hui en termes d'extrême climatique, c'est ce que notre communauté, disons, envisage, anticipe depuis une quarantaine d'années. Il ne faut pas être surpris. Donc, quand on dit que ces extrêmes climatiques vont continuer à s'intensifier, eh bien, je crois qu'il faut accorder de la confiance à notre communauté et donc s'y préparer. On prend conscience de ces problèmes lorsqu'on est affecté directement, mais c'est justement, et c'est là qu'il faut regarder autour de soi ce qui se passe, et qu'il ne faut pas attendre d'être affecté soi-même pour s'y intéresser.
Le climatologue Jean Jouzel répondait à Véronique Robérotte. Environ la moitié des vols prévus aujourd'hui dans les aéroports français ont été annulés, conséquence d'un mouvement de grève chez les aiguilleurs du ciel. Le principal syndicat des contrôleurs aériens avait pourtant levé son préavis hier, après avoir trouvé un accord avec la direction de l'aviation civile. Mais il était trop tard pour reprogrammer les vols déjà supprimés. La puissante Association internationale du transport aérien accuse les contrôleurs aériens français de chantage avec, je cite l'IATA, leurs exigences exorbitantes. C'est un petit séisme judiciaire aux États-Unis. La cour d'appel de New York a annulé la condamnation d'Harvey Weinstein. L'ex-producteur star d'Hollywood avait écopé de 23 ans de prison pour avoir violé et agressé sexuellement une centaine de femmes. C'était la première grande victoire judiciaire du mouvement MeToo. Weinstein qui avait ensuite été condamné en Californie pour les mêmes motifs. On retrouve à New York notre correspondant Loïc Loury. Bonsoir.
Bonsoir.
La Cour d'appel de New York estime que le premier de ces deux procès n'était pas équitable.
Eh oui, une décision prise par les juges à 4 contre 3, et cela 4 ans après la condamnation d'Harvey Weinstein à 23 ans de prison à l'issue d'un procès retentissant à New York. Alors pour comprendre ce revirement très tardif, il faut y revenir justement à ce procès. À l'époque, l'ex-producteur est condamné pour un viol et une agression sexuelle, mais d'autres femmes avaient défilé à la barre, des victimes présumées, sans que leur cas ne fasse l'objet, c'est important, du moindre chef d'accusation. Cette tactique pourtant contestée avait était celle employée par l'accusation afin d'étoffer son dossier, d'aggraver dans l'esprit des jurés le cas d'Harvey Weinstein, décrit comme un prédateur au comportement d'agresseur systémique avec toutes les femmes qu'il croisait.
Loïc, c'est cette méthode qui n'est pas conforme au droit selon la Cour d'appel de New York.
Absolument. Les juges affirment que ces témoignages ont dépeint, je cite, une image hautement préjudiciable de Weinstein et que celui-ci n'a pas été jugé uniquement pour les crimes dont il était formellement accusé. C'est pourquoi la Cour d'appel casse aujourd'hui cette condamnation. La solution à ces erreurs choquantes, dit l'une des juges, c'est un nouveau procès et c'est effectivement la question. Le bureau du procureur de Manhattan assure vouloir faire tout ce qui est en son pouvoir pour lancer une nouvelle procédure. Harvey Weinstein lui restera bien en prison puisqu'il a été condamné l'an dernier à 16 ans de réclusion pour viol en Californie, où il sera transféré, affirment ses avocats. C'est une défaite, quoi qu'il en soit, pour le mouvement MeToo, qui rappelle à quel point le dossier de l'accusation était fragile, malgré les dizaines et dizaines d'accusations dont Weinstein est l'objet. Un revers légal qui rappelle aussi la difficulté à juger ces affaires de violence sexuelle aux États-Unis et ailleurs.
Loïc Loury, en direct de New York, merci. Le dossier de la rédaction nous emmène ce soir au Japon, malgré les critiques critiques venues du monde entier, le pays a repris en 2019 la chasse à la baleine après un moratoire de 30 ans et il veut désormais intensifier cette chasse grâce à un nouveau navire amiral construit à cet effet. Le baleinier est prêt à partir en mission dès le mois prochain. Notre correspondante au Japon, Karine Nishimura, a pu le visiter en avant-première.
Il trône en majesté dans le port de Shimonoseki, capitale japonaise de la chasse à la baleine. Le Kangemaru est le premier navire amiral baleinier construit au Japon en 73 ans, un bâtiment de facture totalement inédite. Yoshihisa Ina, un des dirigeants de Kyodo Senpaku, la société exploitante.
C'est un navire amiral baleinier unique qui regroupe un bateau usine et un bateau cargo. En un sens, on pourrait presque dire que c'est un bateau expérimental.
La partie basse de ce bâtiment à propulsion électrique de près de 113 mètres de long, 21 de large et quelques 9200 tonnes ressemble à un immense atelier d'usine. Une porte gigantesque s'abaisse pour former une rampe avec une inclinaison faible à 18 degrés permettant d'y charger des baleines de très gros calibre repérées à l'aide d'un drone embarqué. Explication du matelot Shimoda.
On hisse ici par l'arrière la baleine qu'on a pêchée, puis on la découpe directement sur place. Nous prévoyons de chasser des baleines de type rorqual commun de 70 tonnes et de les préparer ici.
Pour tailler la bête, il faut une dizaine de techniciens.
On arrive à découper une baleine en environ une heure, à la main, avec des gros couteaux. Les morceaux sont mis en sac pour être congelés en mode rapide en 6 heures à moins 40 degrés. L'ensemble de la chaîne de préparation mobilise environ 50 personnes.
Le Kangemaru peut contenir jusqu'à 800 tonnes de viande congelée. Il partira pour une première mission en mai vers l'est et le nord du Japon et reviendra en décembre à son port d'attache après plusieurs escales en cours de route. Quelques 100 personnes prendront place à bord.
Il y a l'équipage de pilotage, celui des machines, le personnel qui s'occupe de la découpe et congélation de la baleine, les cuisiniers et les techniciens de radiocommunication.
Kyodo Senpaku est le fer de lance japonais de la chasse à la baleine. Le pays a réactivé la pêche des cétacés pour le commerce et la consommation en 2019 après avoir quitté la commission baleinière internationale l'année précédente et mis fin ainsi à un moratoire de 3 décennies. Il s'agit désormais d'encourager la consommation de viande de baleine auprès d'une nouvelle clientèle. Yoshihisa Ina.
Nous aimerions élargir la clientèle aux jeunes et aux touristes étrangers en offrant une qualité de viande de baleine différente de celle du passé.
Le porte-parole du gouvernement japonais, à l'instar d'autres élus du très conservateur Parti libéral-démocrate au pouvoir, salue la construction de ce nouveau bateau, martelant que le Japon veut entretenir sa tradition de chasse à la baleine en respectant des quotas de prise et sans nuire à l'environnement, une position que contestent des organisations écologistes.
Voilà pour ce reportage au Japon de Karine Nishimura. Quand le cinéma se met au service du spectacle vivant, la Comédie-Française propose ce soir à 20h10 une représentation du Macbeth de Shakespeare à la salle Richelieu à Paris et la pièce sera aussi diffusée en direct dans plus de 200 salles obscures en France mais également en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. Cela fait bientôt 8 ans que la Comédie-Française propose des pièces du répertoire à voir en direct au cinéma. Elle s'est associée pour cela à Pathé Live, 15 pièces au total qui ont déjà attiré 200 000 spectateurs dans les salles. Et l'on parle bien de spectacle vivant, insiste l'administrateur général de la Comédie-Française, Éric Ruff.
On connaît la célèbre formule hic et nunc du théâtre, ici et maintenant. Au moment où le rideau se lève, il se lève dans toutes les salles de cinéma aussi, et c'est une expérience en live, c'est-à-dire que toutes les imperfections et toutes les grandes envolées lyriques, tout ce qui peut faire partie du hasard, en gros, tout ce qui fait que les gens ressortent en disant « j'ai vu cette représentation-là et pas une autre », eh bien, c'est augmenté et c'est rapporté au cinéma. Et je pense que les gens ont cette émotion-là et sont conscients que l'acteur qui joue comme un fil de feriste, comme un circassien, parce que s'il tombe, On va le voir. Il n'y aura pas d'effet de montage. On ne va pas couper ce moment-là pour en remettre un autre. Donc, c'est du spectacle vivant. Il se donne au moment où on le regarde. Il n'y a pas d'effet de distance et de temps.
Pour vous, c'est encore du théâtre ?
C'est pas exactement du théâtre, même si, m'a-t-on dit assez régulièrement, des applaudissements fusent et des commentaires se font. Donc, il y a une espèce de réaction du public devant l'œuvre théâtrale filmée qui est beaucoup plus vivante que devant un film. C'est pas exactement du théâtre et en même temps, c'est une façon d'y accéder absolument magnifique. C'est-à-dire que celles et ceux qui vont dans une salle de cinéma loin de Paris et qui peuvent voir la production de la Comédie Française, je suis persuadé que le jour où ils viennent sur Paris, ils vont regarder si les acteurs qu'ils ont vus et aimés sont en train de jouer en live. C'est un vase communicant.
Éric Ruff de la Comédie Française au micro de Benoît Grossin. Spectacle vivant sur grand écran, c'est aussi une série de 2 épisodes à découvrir dans la rubrique Info Culturelle sur franceculture.fr. Un mot du temps demain, marqué par une nouvelle dégradation pluvieuse sur la majeure partie du territoire. Des pluies fréquentes dès le matin sur la façade est de la Méditerranée à la Bourgogne-Franche-Comté, avec de la neige en montagne. Une seconde vague pluvieuse arrivera à l'ouest en cours de journée. Les températures remontent légèrement, entre 3 et 7 degrés pour les minimales, de 13 à 19 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun, à la technique Sébastien Royer.